Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci David, on te retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée en musique, mais pour l'heure, donc il est midi, nous sommes le lundi 4 mai 2026 à Souston sur Souvenir FM, et à midi, c'est l'heure de l'invité du 12-13, l'émission qui vous propose de partir à la rencontre des femmes et des hommes qui s'investissent avec passion sur notre territoire et qui s'investissent au service des autres. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autisme, puisque nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Eger, qui est chargée de mission autisme au département des Landes. Bonjour Sandrine.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Oui, avec plaisir. Vous êtes dans nos studios de TOS accompagnés de deux sauveteurs en mer. Alors j'ai Laurent qui est là avec moi et Maë du SMGBL, donc le syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci de nous recevoir.
Oui, bonjour à tous, merci également.
Ben très bien, alors nous allons tout à l'heure prendre le temps de découvrir ensemble ce que vous faites au quotidien, mais avant cela, c'est l'heure du flash info national et international, alors on se retrouve juste après, à tout à l'heure. Allez, chers auditeurs, c'est parti pour l'invité du 12-13 en compagnie de Sandrine Eger du département des Landes et de deux messieurs, Laurent et Maë du SMGBL. Alors, messieurs, dames, à Souvenir FM, nous avons toujours l'habitude de commencer notre émission par une présentation personnelle des invités. Donc je vais vous demander de vous prêter à cet exercice. Et c'est le moment pour vous de nous parler de votre trajectoire personnelle et de votre parcours de vie, le parcours de vie qui vous a amené jusqu'à notre micro. Alors on va commencer peut-être par Laurent.
Oui, ben, bonjour à tous. Et du coup, mon parcours de vie, si on part du début, j'ai fait ma formation d'éducateur spécialisé sur l'IRTS de Montpellier. Puis voilà, les choses de la vie après un long parcours dans le milieu médico-social. J'ai monté aussi mon entreprise d'espace vert et d'agage. Voilà, et puis j'ai atterri dans les Landes en 2019. Et voilà, et depuis je suis nageur sauveteur sur les plages landaises. Oui. Voilà.
Et puis, originaire des Landes à la base, Laurent ?
Non, originaire de Sud-Ardèche.
Sud-Ardèche,
oui.
D'accord,
voilà.
Très bien. Bon. Et avec lui, donc nageur sauveteur, on est avec Maë. Maë qui nous vient de Mayenne, il nous le disait hors antenne, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Né à Mayenne même d'ailleurs. Mais moi, je suis issu de la filière sportive aussi. Mmh. Hein, j'ai fait des études un peu là-dedans. Après, je suis parti travailler en montagne pendant quelques années. Donc, j'ai alterné un petit peu la montagne l'hiver et puis la surveillance
des plages l'été. Ouais.
Les plages l'été au sein du SMGBL. Et puis, maintenant, content de faire partie des 24 agents du nouveau dispositif NSXL.
Et oui, depuis octobre.
Depuis octobre.
Et donc Sandrine, la troisième mousquetaire de l'émission, donc chargée de mission autisme au département des Landes, racontez-nous un petit peu votre parcours.
Oui, alors moi je suis dans les Landes depuis une trentaine d'années déjà. Je suis toulousaine sinon.
Oui.
J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la question de l'humain. Donc j'ai une formation plutôt juridique et en santé publique, mais j'ai commencé ma carrière au département des Landes du côté de la protection de l'enfance.
Oui.
Et puis j'ai occupé ensuite plusieurs postes, notamment dans l'éducation et la vie associative et citoyenne. Et puis voilà, ce poste permettant d'accompagner un projet autour de l'autisme m'a fortement attirée, parce que voilà, il remplit les cases dans tout ce que je peux aimer, être proche du territoire et le côté humain aussi de l'accompagnement du projet.
Et donc un département des Landes qui agit énormément pour ses causes sociales autour de l'inclusion, etc. On va passer une heure là à discuter de ce que vous faites chacun de votre côté. Le thème central, donc, c'est l'autisme. Peut-être qu'on peut commencer, si autant que faire se peut, par une forme de définition de ce que c'est que l'autisme, de quoi on parle, par quoi cela se manifeste. On parle souvent de TSA. Est-ce que vous pouvez peut-être nous apporter quelques détails là-dessus pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle d'autisme? Parce que bon, j'imagine qu'on entend souvent parler de ça. Il y a autant de formes d'autisme que de personnes atteintes de troubles autistiques finalement.
Oui, alors en effet, il y a beaucoup de préjugés sur l'autisme. Donc l'autisme n'est pas une maladie. On sait depuis plusieurs années que c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est vraiment un développement du cerveau qui s'est fait différemment que celui des personnes neurotypiques. On parle aujourd'hui de trouble du spectre de l'autisme parce que c'est en effet un trouble, c'est-à-dire que c'est un spectre, pardon, il y a différentes formes. Alors on parle souvent de formes plus légères et puis jusqu'à des formes plus complexes. En tout cas, c'est des façons différentes de faire, de ressentir avec un trouble des interactions sociales, un trouble de la communication, qui amène aussi à devoir penser les lieux d'accueil et les façons de communiquer autrement.
Mais alors, j'imagine qu'il y a aussi différents stades ou différents degrés avec peut-être des gens atteints d'autisme qui sont en capacité d'intégrer certaines choses, d'autres moins, etc. Donc il y a aussi, j'imagine, énormément de, et ça vaut pour vous, messieurs les sauveteurs, mais énormément de capacités d'adaptation par rapport au public auquel vous avez référence. Mais très bien, bon, on sait un petit peu plus de quoi on parle là maintenant quand on parle d'autisme. Je dis ça parce qu'il y a quelques jours, on avait reçu Colocadi, que vous connaissez bien, Sandrine, qui sont deux mamans exemplaires qui ont des enfants atteints de troubles autistiques et qui ont monté un projet fantastique. Alors on s'était focalisé beaucoup sur leur action, moins sur la définition de l'autisme. Donc merci pour ça. Au département, donc on est donc au début du mois de mai. Et vient de se terminer le mois landais de l'autisme, qui est, une action phare un petit peu que vous menez depuis 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé cette année, tout ce que vous avez mis en place et aussi et surtout à quoi il sert finalement ce mois landais de l'autisme? C'est un peu grâce à lui qu'on se retrouve tous aujourd'hui dans ce studio d'ailleurs.
Oui, alors le mois landais de l'autisme est un des axes du projet que l'on intitule Chacun sa vie, chacun sa réussite, parce qu'on veut que ce soit vraiment des projets très individualisés pour chacun. Je parlerai plus peut-être après de l'ensemble du projet et en quoi il consiste, mais en tout cas on a dans ces axes du projet l'idée de sensibiliser un maximum de personnes, que ce soit le grand public mais aussi des professionnels, des familles, à ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme et comment on peut mieux intégrer ces personnes, enfants, jeunes, adultes, dans tous les lieux de vie, dans tous les moments de la vie, dans un parcours. Donc ce mois landais, c'est un programme que coordonne le département des Landes, en effet depuis 4 ans, avec des initiatives de nombreux partenaires. On a de plus en plus de partenaires qui sont associés
d'année en année,
à ce programme et c'est tant mieux. Moi je suis là pour un peu mettre en musique toutes ces initiatives sur le territoire, alors s'assurer aussi qu'on ait une répartition assez homogène. On a un grand département géographiquement
par
donc qu'on ait bien sûr des actions qui soient portées un peu partout dans le département, et aussi des initiatives qui peuvent être à la fois sportives, culturelle, citoyenne, avec des ciné-débats aussi, des temps de sensibilisation auprès des familles, mais aussi auprès de professionnels. Voilà.
Et alors parlons du département. Le département des Landes, effectivement, il est grand d'un point de vue géographique. On est à peu près autour de quoi, 400-500 000 habitants peut-être. Donc un département rural, un département côtier, mais un département qui fait la part belle à ces questions d'inclusion, de travail autour du handicap, etc. Je reviens aussi sur des gens qu'on a reçus ici à Souvenir FM, du village Alzheimer de Dax. Et je crois que c'est un bon exemple, parce que c'est un cas vraiment unique en France, mais c'est un bon exemple qui illustre la manière dont le département s'investit au quotidien sur ces questions. Et je pense que tous les départements de France ne le font pas à cette hauteur, donc c'est l'occasion de le saluer. Revenons rapidement, avant de faire notre première pause peut-être, sur le projet Chacun sa vie, chacun sa réussite, à l'image un petit peu du village Alzheimer, sans forcément s'épandre sur la question, mais il y a un projet autour d'un campus autisme, c'est ça, à Mont-de-Marsan. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste? Je crois que ça ressemble un petit peu au village Alzheimer, en quelque sorte.
Oui, alors dans l'idée, en effet, c'est vrai qu'on est sur vraiment l'héritage de d'Henri Emmanuelli. Et oui. Puis le président Xavier Fortinon assure cette continuité avec nos élus départementaux. Il y a cette volonté d'être toujours à la pointe de l'innovation en termes de structure et d'idées, notamment pour ces publics en situation de handicap. Donc un peu, en effet, tel qu'a été proposé et prévu le village landais d'Alzheimer, on a réfléchi depuis plusieurs années, hein, ça date déjà depuis 2018, oui. À cette création de structures passerelles que sera le futur campus autisme à Mont-de-Marsan, qui devrait voir le jour plutôt fin 2028, début 2029, restons prudents.
Oui, les calendriers, on sait toujours qu'il y a l'annonce et puis la réalité, mais
c'est,
bon.
C'est en tout cas une structure qui sera innovante en deux points. Oui. La tranche d'âge des jeunes concernés, oui. Donc des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme, un TSA, 15 à 25 ans. Donc pour la première fois, on aura à la fois des jeunes mineurs et majeurs accueillis sur le même site. Et également innovant dans le sens où ces jeunes seront là pour une durée transitoire autour de 3 ans.
D'accord.
Pour créer un projet vraiment individualisé avec eux.
Et leur permettre de s'autonomiser petit à petit, parce que je crois que c'est aussi l'enjeu pour les jeunes atteints de TSA de cette tranche d'âge. Bon, ben merci pour cette introduction. C'est déjà l'heure de notre première pause, messieurs, dames. Donc on se retrouve juste après, et puis je donnerai évidemment la parole à ces messieurs sauveteurs en mer juste après. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans l'invité du 12-13 sur Souvenir FM, où nous animons une émission placée sous le signe de l'autisme aujourd'hui. Alors Sandrine Heger du département des Landes nous a brillamment exposé tout ce que le département mettait en place, notamment dans le cadre du mois landais de l'autisme et bien au-delà. Hein. Donc on parlait notamment du projet de campus autisme. On est aussi en présence de ces messieurs sauveteurs en mer. Donc vous travaillez pour le SMGBL, Laurent Vess. Oui. Est-ce que vous pouvez en deux mots déjà nous présenter peut-être la structure en général et puis le dispositif tout récent qui vient d'être monté. Je pense que c'est important aussi d'en dire deux mots. Le dispositif NSXL.
Oui, tout à fait. Sinon déjà on ne serait pas là. Donc oui. Le syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Eh bien, c'est une structure qui est mandatée par les communes du littoral pour eh bien gérer tout ce qui concerne les plages, tout ce qui concerne la surveillance, la sélection des nageurs sauveteurs, la qualité des eaux de baignade. J'en oublie, mais. Ouais, c'est à peu près
c'est la structure qui chapeaute, on dira, habituellement les sauveteurs en mer, notamment oui. saisonniers, mais il y a une nouveauté par les sélections qui ont eu lieu d'ailleurs
au mois d'avril, qui viennent de se finir, et c'est la même structure du coup qui a mis en place avec le département, les communes, tant les communes du littoral que les communes lacustres, oui. qui a mis en place un dispositif des nageurs sauveteurs XL. Donc on a été 24 à participer à ce projet depuis le mois d'octobre. Et donc voilà, c'est un dispositif tout nouveau. Et...
NSXL, donc c'est nageurs sauveteurs, donc NSXL pour le département des Landes. Et donc la nouveauté d'octobre 2025, c'est que donc, vous venez de le dire, il y a 24 postes qui ont été ouverts pour assurer du coup les missions habituelles, je dirais, saisonnières des sauveteurs l'été autour des lacs et de l'océan, exactement. Mais vu que vous êtes maintenant titularisé sur toute une année, vos missions vont bien au-delà, mais c'est ça. Où vous êtes en lien avec l'autisme par rapport au projet Inclusion Bleue, mais vous disiez aussi qu'il y a beaucoup d'autres cordes à l'arc finalement de ce NSXL, Maï.
Tout à fait. En fait, on s'est appuyé un petit peu sur les nombreuses compétences que peuvent avoir
chaque agent,
les 24, et du coup. Bon, on est parti quand même d'un constat que les saisons étaient de plus en plus larges.
Oui.
Et que du coup, ça avait du sens de sensibiliser le grand public aux dangers, notamment de l'océan. Mmh. Donc, dans la période hivernale, on va dire, on intervient sous forme de patrouille, quand les conditions météorologiques le permettent. On a aussi un rôle, on va dire, de prévention au sein des écoles, oui. primaires, collèges, notamment à travers une action qui s'appelle Génération Sauveteur.
Oui.
Et puis, on a créé une nouveauté aussi, le NSXL Academy, où là, oui. les jeunes, à partir de 16 ans, peuvent venir participer à, on va dire, des actions de sauvetage comme on peut réaliser, en fait, sur les plages ou les lacs durant la saison estivale, entre autres. Et puis après, chacun dans les 24 ont des micro-missions...
Voilà, qui vont au-delà de la surveillance, etc. Et donc c'est votre cas, donc Laurent, avec votre passé d'éducateur spécialisé en Belgique. Vous nous en parliez lors de votre présentation. C'est ce qui vous a amené jusqu'à ce dispositif, on dira pas, mais jusqu'à ce projet Inclusion Bleue, donc qui mêle finalement approche de la mer, de l'accès au littoral. Finalement, c'est repenser l'accès au littoral pour tous, hein, en dépassant. Donc la mission de la surveillance et en s'adressant à un public autiste finalement.
Oui, complètement. Bon, et pas que, mais là c'est vrai oui. que pour les missions, c'est vrai qu'on voit beaucoup des groupes ou les structures d'accueil qui se situent en bord de plage et qui en pleine saison n'osent pas spécialement se rendre à la plage parce que ça peut être compliqué. Nous, on est vraiment dans nos missions de surveillance et donc on est un peu moins disponible. Et là, c'est vrai que d'avoir mis en place les NSXL, chacun, comme disait Maë, chacun rebondit sur nos parcours professionnels. Mmh. Ceci étant dit aussi, c'est les rencontres. Donc, moi, je sais que, par exemple, oui. Marie-Laure Dubernet des Cigalons.
Donc, du FAM des Cigalons à l'ITEMIX, c'est ça?
À l'ITEMIX.
Donc, c'est un foyer d'accueil de personnes autistes.
Oui.
C'est ça?
Tout à fait. Et en lui adressant un mail, elle a rebondi dessus. Puis, elle nous a invités au mois landais. C'est allé très, très vite. Et c'est là qu'on sent la dynamique au niveau du département, tant à notre égard, en tant que nageur sauveteur, nous on s'en rencontre du coup dans notre quotidien, mais aussi dans la dynamique qui est impulsée, la rencontre avec Sandrine Eger et puis l'invitation qu'on a eue pour ces journées de l'autisme, et c'était quelque chose d'assez professionnellement très, très enrichissant pour chacun.
Et oui, ça répond effectivement à un besoin du territoire et puis des habitants du territoire, parce que Sandrine, il y a un manque, enfin vous avez observé vous quand même un manque de solutions adaptées pour certaines personnes qui sont touchées par ce phénomène, que ce soit les aidants, etc. Et donc le boulot que vous faites en partenariat en l'occurrence, enfin ou qui est fait par le SMGBL, c'est autant de dispositifs qui permettent d'essayer de trouver des solutions de communication avec les jeunes autistes, etc. et qui permettent de trouver des solutions adaptées finalement, hein. C'est ça l'enjeu.
Oui, c'est l'origine du projet Chacun sa vie, chacun sa réussite. C'est le constat qui avait été fait que beaucoup restait à faire, oui. à la fois pour répondre aux attentes des familles concernées par le trouble du spectre de l'autisme et répondre aux besoins des personnes elles-mêmes. Mmh. Et donc ce projet, il vise justement à accompagner toutes ces initiatives, qu'elles soient associatives ou institutionnelles, qui tout ce qui va permettre de mieux intégrer dans le quotidien la personne autiste est soutenue par le projet. Et donc là on est sur l'accessibilité, la question de l'accessibilité à la plage, à l'activité aquatique, la prévention aussi. Donc moi j'ai rebondi tout de suite appris ce projet-là.
Les choses se sont enchaînées rapidement. Et vous, Laurent, vous disiez que c'était en regardant certaines personnes donc autistes sur la plage qui n'osaient pas approcher de la mer, etc. C'est là que vous avez eu un petit peu un déclic et dire il faut faire quelque chose, essayer de les aider et qu'on profite nous de notre expertise entre guillemets pour arriver à les rapprocher de la mer, quoi, finalement.
Oui, complètement. En fait, c'est aussi comment on met en place nos champs de compétences, oui. que ce soit les nageurs sauveteurs du NSXL et les éducateurs des structures qui accueillent ces personnes qui souffrent de TSA. Et le lien avec les deux, ben ça permet de monter des projets qui sont cohérents et qui, ben oui, qui amènent ces personnes qui n'ont pas spécialement accès à l'océan, parce que ça reste un milieu difficile. Oui. Et nous, ben, par notre champ de compétences, on les accompagne là-dedans. Mais après, tout le regard professionnel des éducateurs aussi, eh ben, c'est eux qui nous guident dans les, comment dire, dans les attitudes, dans les comportements, dans le décryptage de ces sensations-là qu'eux, ils ont au quotidien. Eh ben, nous, du coup, ils nous transmettent en direct. Eh ben, peut-être que là, il ne faut peut-être pas forcer comme ça. Enfin,
et ça vous fait progresser aussi dans l'approche vis-à-vis de ces personnes.
C'est une double lecture qui est intéressante. Oui.
Et je crois que vous avez, on en reparlera, c'est l'heure de notre deuxième pause, on en parlera tout à l'heure. Vous avez déjà commencé, il me semble, des ateliers,
oui, tout
etc.
À fait,
donc il y a un retour d'expérience qui pourrait être intéressant.
Oui, Maë et Axel ont déjà débuté aussi.
On en parlera tout à l'heure. Alors Maë, c'est l'heure donc de notre deuxième pause. Merci pour ces échanges. On se retrouve juste après une petite pause musicale et les infos locales de Jean-Philippe Dandurand. Et nous voilà de retour pour la troisième partie de l'invité du 12-13 où nous parlons aujourd'hui de la thématique de l'autisme avec Sandrine Eger du département des Landes et avec le SMGBL, les sauveteurs en mer. Donc je vous redonne la parole, messieurs. On avait conclu la deuxième partie de l'émission sur tout le dispositif, le projet Inclusion Bleue que vous mettez en place. Je suis curieux maintenant, notamment Maë, de savoir qu'est-ce que vous mettez en place dans les ateliers là que vous avez récemment montés. Comment vous organisez finalement les visites ou la pratique, je dirais, de la plage pour les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais pour les autistes. Racontez-nous un petit peu.
Alors, il faut dire qu'on a attaqué la première séance donc la semaine dernière, et je pense que ça va être un travail au long cours parce que il faut déjà que ces personnes se familiarisent un petit peu avec le matériel, avec l'environnement. On parlait notamment du fait d'enfiler les combinaisons.
Donc vous avez finalement les éducateurs par exemple des Cigalons qui prennent quoi une petite dizaine de personnes et qui vous les amènent qui vous les amènent, et donc vous après vous les initiez à toutes ces choses notamment le fait de toucher une combi, de l'enfiler, etc.
Voilà,
parce que c'est pas évident avec ce type de public.
Ça prend un petit peu de temps, ouais. Et puis il y en a un par exemple la semaine dernière qui l'a mis et puis en fait il a préféré l'enlever par la suite. Donc il faut qu'on se familiarise un petit peu avec tout ça, mais c'est vrai que nous l'idée c'est de... Nous on est des passionnés de l'océan pour notamment tous ses bienfaits. Et je pense que à ces personnes, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et on a notamment vu une de ces personnes courir. Et d'après les éducateurs, ça faisait un moment que ça lui était pas arrivé. Donc il y a beaucoup de positifs là-dedans.
Il est arrivé sur la plage. Il s'est senti tellement bien qu'il s'est senti le besoin de courir, ce qui lui était pas arrivé depuis longtemps.
Ouais.
Donc ça veut dire que la pratique de la plage, ou en tout cas votre action, peut avoir des vertus, on dira, presque thérapeutiques pour ces gens-là. Sandrine, vous disiez qu'il y a toute une approche sensorielle à appréhender, à la fois pour vous, messieurs éducateurs, j'allais dire, messieurs sauveteurs, mais pour ces personnes-là, voilà.
Il faut savoir que pour les personnes autistes, leur spécificité, souvent sensorielle, est à prendre en compte et peut être différente d'une personne à l'autre. Donc, ils peuvent être hyposensoriels, hypersensoriels, c'est-à-dire que certains vont avoir besoin de se stimuler d'une certaine façon avec parfois une appréhension et une prise en compte de leur enveloppe corporelle qui peut être différente, encore une fois, selon les uns les autres. Donc tout ce milieu du bord de mer et puis après de l'océan peut être bénéfique, mais avec une prise en compte du fonctionnement spécifique de chacun. Et ça, c'est vrai que c'est le l'accompagnement des éducateurs qui les connaissent bien, notamment ceux des foyers qui les accompagnent, se faire.
Il y a des briefings du coup entre vous et les animateurs, j'imagine, avec un tel, il est plus fais attention parce qu'il est plus sensible à ça, un autre sera sensible à ça. J'imagine que tout ce qui est il faut anticiper, il faut être patient aussi, j'imagine, mais le contact avec l'eau, moi je suis assez intéressé pour savoir ça. Est-ce que peut-être c'était les tout premiers ateliers, mais est-ce que vous avez réussi à les mettre à l'eau, ces gens, ou pas encore, ou c'est illusoire de penser comme ça?
Non, ça va se mettre en place, mais je veux dire, il y a une découverte commune qui va s'opérer, et en fait je pense qu'on travaille avec beaucoup d'hypothèses, et donc là, pour dans un premier temps, eh ben justement, comme disait Maë qui a mené la séance avec Axel, notre collègue aussi qui est pas là aujourd'hui, mais qui fait bien partie de ce projet là eh ben ils ont pu déjà travailler tout ce qui était la sensibilité quand on arrive au bord de l'océan, c'est un milieu complètement différent. Je veux dire, il y a le vent déjà, vent d'ouest, et souvent c'est le vent d'ouest qu'on a. Là, en l'occurrence, le jour de cette séance, il y avait un fort vent d'ouest, si je ne me trompe pas. courir sur le sable, c'est pas quelque chose qui fond, donc on est sans chaussures, sans chaussettes, enfin on est en contact direct avec la nature, l'écume, la mousse, enfin voilà. Et les prochaines séances, ben petit à petit, c'est là, vers là où on va aller. Il y a les familles qui sont parties prenantes avec ça, qui vont pour les quatre jeunes du FAM acheter des combinaisons, et donc on va se lancer, parce que là l'eau est fraîche, et je pense que c'était pas trop adapté d'aller à l'eau comme ça, mais la prochaine séance qui sera mardi, pas ce mardi mais l'autre,
enfilement de combinaisons, c'est déjà pas facile pour nous.
Mise à l'eau, non Maë?
Ouais, ça serait pas mal, ouais.
Voilà, on verra.
Vous avez, ouais, c'est ça. Donc c'est environ, il y a deux personnes pour un éducateur, quoi. Pour un encadrant.
Là, il y a ça, grosso modo, là. Oui, il y a ben pour le femme autisme, oui, il y a une prise en charge un peu soutenue, parce que voilà, on découvre, hein, un maximum de sécurité. Il y a aussi les éducateurs qui sont là, bien évidemment. Et voilà, après le foyer de vie, on est un peu moins nombreux, enfin ils sont un peu plus nombreux, et puis l'IMEP de Mimizan aussi.
Et alors comment se fait la sélection pour les personnes, pour les heureux, j'ai envie de dire, pour les heureux choisis de cette expérience? Ça se fait par volontariat, peut-être pas, mais c'est les éducateurs qui choisissent. Est-ce que c'est déjà aussi toujours les mêmes personnes que vous recevez, ou est-ce que justement vous essayez d'ouvrir un maximum?
Alors ça va être plutôt les éducateurs en fait qui vont décider de ça en amont. Et ils nous expliquaient que parfois ils vont voir dès le matin si telle ou telle personne va être plutôt réceptive à venir à l'océan ou non.
D'accord.
Donc à partir de là, c'est tout l'intérêt, nous, de notre boulot. C'est, comme on peut dire, c'est de la pédagogie différenciée. En fait, on va s'adapter à chaque cas, et puis on va aller à des rythmes différents. Mais l'intérêt, ça va être de voir l'évolution au fur et à mesure des séances.
Oui, c'est important aussi de voir en quoi donc votre structure de sauvetage côtier, finalement, par ce financement du NSXL, permet à des structures encadrantes, donc le FAM, en l'occurrence des Cigalons, etc., d'avoir un soutien hyper important. Enfin, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, ça veut dire que les financements, ou tout l'investissement du département, Sandrine, qui a été fait, tous les financements qui ont été mis sur ces questions-là, finissent par retomber positivement en fait sur le territoire et sur toutes les structures qui sont pas forcément gérées d'ailleurs par le département. Mais
oui, puis à terme, ça permet de voir à la fois pour les familles et les encadrants médico-sociaux que c'est possible. C'est-à-dire que on pourrait parfois se priver de ce type de sortie ou d'activité parce que on pense que ça va être trop compliqué avec ce public-là. Ce dispositif le permet et on verra dans le déroulé, mais va permettre vraiment concrètement de mettre tout ça en place et du coup de porter ses fruits finalement sur du long terme, parce que les familles pourront par la suite peut-être reproduire aussi ces activités aquatiques.
J'ai pas pensé, je trouvais que ça allait être trop dur, et puis finalement on m'a montré que c'était possible, donc je le ferai.
Et là du coup on voit bien que quand on aménage l'accueil, l'accessibilité. Et là, on est sur des personnes autistes, mais c'est bien sûr valable aussi sur d'autres oui. types de handicap. Bah, c'est complètement bénéfique pour la personne elle-même et pour tous.
Et pour l'encadrant, voilà, il y a la vertu potentiellement pédagogique, thérapeutique de la mère pour ce public-là, mais c'est aussi le travail avec ce public, Laurent, c'est aussi thérapeutique pour soi-même. J'imagine qu'on apprend beaucoup de soi-même quand on est on est au contact de ces gens-là, non ?
Complètement. Et je veux dire, c'est ce qui est motivant et c'est ce qui nous amène à construire ce projet. Je veux dire, Maé, lui, il a un fort passé en pédagogie. Notre collègue Axel aussi, de par sa famille, oui. Ils étaient famille d'accueil. Ils ont accueilli des personnes autistes chez eux. Le parcours professionnel qui est le mien, bon, bref, oui, on sait que si on va sur ce registre-là, c'est des choses qui nous motivent et qui nous boostent dans notre quotidien professionnel.
Ben ouais. Bon, c'est vrai que c'est une c'est assez, enfin j'allais dire respectable, mais le mot n'est pas assez fort. C'est même enfin moi je suis admiratif effectivement de ce que vous faites, parce que bon, c'est quand même donner de soi, mais il faut savoir que c'est donner de soi pour quelqu'un et puis pour soi-même aussi, ouais. Hein, parce qu'on reçoit beaucoup. C'est l'heure, messieurs dames, de notre dernière pause, donc on se laisse en musique et on se retrouve pour la conclusion de l'émission. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour la toute dernière partie de notre émission, l'invité du 12-13 avec Sandrine Aiguer du département et messieurs du SMGBL. Alors vous nous avez exposé tout ce que vous mettez en place, messieurs, auprès donc des personnes autistes et de l'accès à la mer. On voit bien que donc cette action du SMGBL autour de l'autisme est l'exemple même du sens donné à votre mission, Sandrine. C'est finalement mettre en synergie des acteurs pour mieux inclure des personnes autistes dans la société. Et donc c'est effectivement la preuve que les investissements du département, si on peut parler d'investissements, hein, que ce soit financiers ou humains, qui sont parfois durs à saisir par certains, bah finalement ces investissements-là, ils ont du sens.
Oui, complètement. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette politique très volontariste en faveur de l'inclusion, notamment sur cette thématique de l'autisme. On a des élus très très impliqués, hein, Paul Carrère et Magali Valiorgue en particulier, en charge des solidarités et du handicap. Et c'est vrai que le fait de permettre que perdurent ces projets, ce projet chacun sa vie, chacun sa réussite, mais donc notamment à travers cet aspect du mois de l'année de l'autisme et les rendez-vous l'année de l'autisme, on est, comme vous l'avez dit, en plein dans l'objectif de synergie entre les acteurs. C'est vrai que le fait que Laurent, enfin, ils ont tous pu être présents lors de nos rendez-vous l'année en début du mois d'avril. L'idée, c'est de faire connaître ce qu'est l'autisme, oui. Et de permettre que les gens se rencontrent entre personnes concernées, professionnels du secteur, mais aussi ceux qui connaissent pas forcément, et je pense que là on a réussi le pari, oui. Et c'est la même idée pour ce mois landais de l'autisme qui touche à sa fin, oui. Depuis la semaine dernière, c'est permettre aux gens de se rencontrer et qu'on ne s'en tienne pas qu'à ce mois là hein. Alors oui. c'est un temps fort et c'est important, mais l'idée c'est que hop on permet de poser des jalons pour que durant tout le reste de l'année, des actions nouvelles prennent place et s'inscrivent aussi dans la durée. Parce entre que là, les uns et les autres.
On rappelle, Laurent et Maé, que votre action liée à l'autisme, l'inclusion bleue, c'est tout frais, quoi. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, vous êtes, on est au stade de l'expérimental, quoi.
Complètement, oui, complètement.
Donc il y a tout à faire, mais en même temps, vous avez déjà, je veux dire, les idées claires sur ce que vous allez continuer à mettre en place pour longtemps, espérons-le.
Oui, ben là, déjà jusqu'à la pleine saison pour nous, donc tout le mois de mai, au rythme de chaque semaine, on va mettre en place nos séances, et puis la rentrée, ben on sera là, on répondra présent aussi pour poursuivre.
Et puis, on peut aussi évoquer le fait que, alors on parlait de choses expérimentales, que ce soit pour vous, Sandrine, ou pour vous, Laurent, vos actions sont aussi reconnues, au moins sur le principe, parce que il y a quelques chercheurs qui commencent à s'intéresser aussi à vos actions et qui vous allez probablement aussi bosser un petit peu avec eux, travailler avec eux pour essayer d'avoir des retours d'expérience sur ce que vous mettez en place pour essayer de faire progresser la prise en compte de l'autisme. Et ça, c'est quand même important de le dire. Voilà, et je vous remercie tous les trois d'avoir participé à l'émission. Ça touche à sa fin. Avec le beau soleil qu'il y a dehors, on aurait pu y passer encore deux heures, ça n'aurait pas été un problème. Donc non, en tout cas, je vous félicite tous les trois pour ce que vous faites pour la société, pour le département des Landes et pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Je vous remercie pour la participation à l'émission et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de vos travaux respectifs. Merci à vous.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et je vous laisse en compagnie de David qui va reprendre la main sur la programmation et la musique. Et on se retrouve pour une prochaine émission de l'invité du 12-13, Adi Schatz.